France Musique.
Merci beaucoup Lionel Esparza, bonne année à vous et on vous retrouve demain pour un nouveau Classic Club.
1, 2, 3, pas. Hein ? Encore une fois ?
Chers écoutants, bienvenue dans le Cri du Patchwork, une émission qui vous souhaite une bonne année 2038. Et pour commencer une année pleine de sons, nous allons nous aventurer dans l'univers de la bande magnétique, médium d'enregistrement et de montage qui a encore de beaux jours devant lui, comme nous le verrons avec nos différents invités du mois. La preuve avec notre invité de ce soir, Marc Parazon, autrement appelé Such, qui joue de la bande magnétique comme objet de performance live, de montage en studio ou de prétexte à installation sonore et plastique. Un univers qui fait entendre la bande, mais surtout qui la fait voir. Bien entendu, on retrouve en fin d'émission les portraits sonores d'Antoine Berland, des micro-montages de bruit d'écoutant. Et comme chaque mardi, un son qui fait froid dans le dos. Le cri du patchwork, thème numéro 33, épisode numéro 1, séquence numéro 1.
Hey, qu'est-ce que vous avez fait encore ?
Pas étouffé.
Eh oui.
Le son de la semaine. Les pas dans la neige. Avec cet effet incroyable, cette texture inimitable. Quoique, les bruiteurs des fictions de France Culture nous diraient le contraire, armés de leurs éponges. En tout cas, un son qui a une réelle signature. Une signature qui nous transporte dans le froid. Imposant directement une structure narrative. Radio Mental, groupe réunissant les deux DJ Jean-Yves Leloup et Éric Pageot, nous raconte des histoires par les sons. Dans ces fictions sonores, ils arrivent à nous immerger dans des univers souvent sombres. Comme ici dans ce crash en Alaska de 2002.
Thank you.
Ambiance un peu glauque. Et pourtant, vous mettez des pas dans la neige et un grelot, eh bien, ça fait ça. La chanson de Noël « Carol of the Bells » de Mykola Leontovitch, ici introduite par des pas dans la neige tout légers et naïfs. Samuel Sigicelli, pianiste et compositeur, nous balade dans la neige avec cette carcasse désossée qu'il expose au fur et à mesure dans son piano augmenté, c'est-à-dire préparé et couplé à un sampleur. Dans cette musique de peu de gestes, de son discret, apparaissent des pas sur la neige qui finissent par faire exploser une musique vive et agressive. Carcasse dans la neige, du meilleur effet. Autre piano, quoique. Autre pas sur la neige. Lorsque Claude Debussy écrit « Des pas sur la neige » dans son premier livre de préludes de 1910, il touche ici aux possibilités timbrales de l'instrument. Comment suggérer ce son si particulier avec des touches de piano? Comment faire entendre l'impact sourd de la chaussure sur la surface de la neige, suivi de l'écrasement suintant de la poudreuse sous la semelle de la dite chaussure? Parmi les innombrables versions de ce prélude de Debussy, en voici une qui me plaît particulièrement. Samson François ou l'art de suggérer les moon boots. Alors, évidemment, plus vous connaissez réellement le son de la neige, plus vous avez de chances de vous en approcher. Quand vous n'en avez jamais entendu, ben c'est compliqué. Alors pour Bjarne Kvinsland, lui parler de bruit de la neige, c'est lui parler d'un environnement sonore qui résonne en lui. Et quand on lui demande de faire un portrait sonore du nord de la Norvège, évidemment, le pas dans la neige y figure à la bonne place. Et surtout de si près qu'on a l'impression qu'il nous marche dans les oreilles. Un peu de neige salie. C'est le nom de cette œuvre de Bernard Günther, dans laquelle on a la sensation d'entendre de la neige froissée au ralenti. Mais qui nous dit que c'est de la neige et pas simplement de la manipulation en studio? Rien. Mais j'aime l'image de cette neige transformée, triturée, jusqu'à créer des matières électroniques. La neige est également un excellent filtre à son. Le compositeur Jonas Brach, pendant la création de Snowdrifts, c'est plus à écouter les changements d'acoustique liés au mauvais temps et à la neige. Et en ressort une sorte de pas sur la neige filtré et surfiltré.
Thank you.
Pour prolonger le son des pas sur la neige, écoutez ce son de glace qui craque. Enfin de glace, de glacier devrais-je dire. Le groupe Biosphere, dans Meltwater, nous fait entendre le chant de ce glacier du nord de la Norvège qui geint par-dessus le son des câbles de téléphérique. Et quand on écoute bien, on a l'impression d'entendre d'énormes pas sur la neige. Un impact sourd et un écrasement chuintant. Un écrasement chuintant. Ce chuintement, si on le prolonge, pourrait donner cette phonographie de Yannick Dobby, artiste sonore et phonographe, qu'il a appelé simplement « neige ». À l'écoute de cette neige, je ne peux m'empêcher d'y entendre le chuintement d'une bande magnétique, le craquement d'un vinyle, le souffle continu d'un médium sonore vibrant. La neige ou le chuintement au cœur du tympan.
Vous voyez qu'on y arrive, hein ? C'est pas compliqué quand même.
France Musique. Le cri du pas. Patchwork, Clément Lebrun.
Marc Parazon, bonsoir.
Eh bien, bonsoir, Clément.
Est-ce que je vous appelle Such?
Oui, vous pouvez. C'est mon pseudonyme, c'est un nom de scène, c'est pas mon prénom, mais peut-être que Marc, ça ira aussi bien.
Ouais, ça me plaît aussi. Vous êtes ingénieur du son, compositeur et artiste sonore. Et vous êtes ici pour parler de votre médium, parce qu'on peut vraiment dire votre médium, un peu comme un peintre aurait choisi un tableau, une planche de bois ou une feuille, un papier. Vous avez choisi la bande magnétique pour être votre médium d'expression. Pour vous, avoir choisi la bande magnétique, c'est une manière de dire elle n'est pas morte, elle est toujours présente.
Alors, c'est surtout pour ne pas avoir à utiliser d'ordinateur sur scène. C'est le stratagème que j'ai trouvé, c'est d'utiliser la bande magnétique. Ce qui ne m'empêche pas d'utiliser un ordinateur pour produire et fabriquer des sons. Mais lorsque je performe sur scène, ça m'embêtait en tant qu'auditeur ou que performeur d'avoir affaire à de l'informatique.
Pourquoi ? Parce que finalement, l'informatique, on en parlera par exemple avec Michel Chion la semaine prochaine, c'est un outil qui a permis de faire une musique à peu près équivalente que sur les bandes magnétiques. Pour vous, c'est une différence de geste de l'instrumentiste, c'est-à-dire celui qui travaille vraiment la matière, comme celui qui travaille la corde ou l'instrument de avant ?
Il y a un rapport à la gestuelle qui peut être important. Et puis simplement, je trouve ça gênant en tant qu'auditeur d'avoir affaire à une pomme, mettons, qui est devant un musicien, où on se demande ce qu'il peut faire, même si on ajoute toute une lutherie électronique avec des capteurs, etc. La bande magnétique avait l'avantage de, avec les magnétocassettes que j'utilise, que j'appelle magnétophone augmenté, puisqu'il y a des boutons qui ont été rajoutés qui permettent de ralentir la bande, de filtrer le son. Ça me permet d'avoir une vraie gestuelle, qui n'est pas forcément évidente à comprendre pour le public, puisque comme il y a plusieurs magnétophones qui tournent à la fois, parfois je fais une action sur l'un et le son qu'on entend est pas forcément corrélé avec le résultat sonore. Mais il y a parfois des points de synchronisme qui sont beaucoup plus lisibles.
Parce qu'on vous voit justement actionner la bande réellement. Là, on va écouter un petit extrait quand même de votre univers sonore, parce qu'on en parle sans l'entendre pour l'instant. On va écouter Isotope H. C'est une pièce assez ancienne, mais dans laquelle on entend vraiment vos matières, qu'on va retrouver un peu tout le long de cette interview. Une matière assez identifiée, et puis avec des impacts, des événements qui viennent s'ajouter sur cette matière.
Thank you.
un extrait de Isotope H de Such alias Marc Parazon. Alors Marc, ici on entend une matière qui vous appréciez particulièrement, c'est ce chuintement, cette matière qu'on pourrait dire presque le craquement de vinyle qu'on retrouve ici sur de la bande quelque part. Vous travaillez sur la bande pour y faire figurer des sons qui n'y sont pas au départ, alors qu'on pourrait dire la bande elle souffle elle-même.
Alors je suis très sensible au craquement de vinyle, c'est une matière que j'utilise énormément pour mes compositions. Parce qu'elle a un pouvoir d'évocation d'un passé mythique, révolu ou pas, je suis pas sûr, mais...
Ouais, c'est à la mode en ce moment.
En tout cas, pour moi, elle, c'est une matière qui est à la fois très bruitée, mais qui peut être rythmique. On peut avoir une simple rayure sur un disque, et selon la vitesse à laquelle on lit 16, 33, 45, 78, on n'a pas la même rythmique. Donc elle a un pouvoir aussi presque d'hypnose. Je pourrais écouter la fin d'un disque pendant des heures, je crois, là, sans... si on n'a pas une platine automatique qui fait revenir le bras.
Ah oui, c'est dur à trouver. Mais pourquoi, dans ce cas-là, travailler sur la bande et non pas directement sur le vinyle ?
Alors ça, c'est une question économique. C'est parce que c'est beaucoup plus cher de fabriquer un disque que d'enregistrer un son sur une bande magnétique. Je ne suis pas spécialement amoureux du chointement de la bande magnétique. J'aime bien les sons de manipulation, quand on accélère, simplement les actions mécaniques quand on appuie sur les boutons de lecture, d'arrêt, mais pas spécialement du chuintement de la bande magnétique. Par contre, le craquement du vinyle, oui, celui-là, je trouve que c'est un son qui relève de la magie, une espèce de caméra obscura du son. Quand on met une aiguille sur un disque, un craquement et de la musique en sort, il y a vraiment quelque chose qui me paraît magique.
Et cette manière de mettre en abîme, quelque part, les différents médiums, enfin les différents médias de la musique et de son, c'est un peu votre marque de fabrique, Marc Parazon. En tout cas, cette manière aussi de faire apparaître différentes couches, différentes strates dans votre musique, parce que vous avez l'habitude aussi de multiplier les sources sonores, les sources de bandes qui vont se croiser, que ce soit en live, lorsque vous manipulez des cassettes, des radiocassettes, enfin, radiocassettes, je ne sais pas si c'est radiocassettes.
En tout cas, pas forcément radio.
Non, c'est pas tout. Voilà, en tout cas, des appareils pour lire les cassettes. Et puis, évidemment, en installation, puisque vous faites des installations régulières, mais avant d'en parler de ces installations, j'aimerais bien écouter un morceau qui s'appelle Monde Charge, dans lequel on entend quelque part un souvenir, enfin, c'est comme ça que je l'ai lu, vous allez me dire si c'est complètement à côté de la plaque, un souvenir d'une musique qui aurait pu être déformée par les ans, un peu comme un vinyle qui aurait vieilli par lui-même. Thank you. Un extrait de Monte-Charge de Marc Parazon, enfin Such. C'est édité sur dans un label assez intéressant, Stalk Tape, qui vous a édité 12 séries de cassettes audio, avec chaque fois un morceau, une matière que vous travaillez. Et là, on entend dans ce Monte-Charge vraiment des différentes étapes, avec ce souffle qui a filtré différemment à chaque fois et qui va vers les aigus. Et puis derrière, tout derrière, une sorte de cœur qu'on a l'impression de connaître, comme s'il résonnait en nous, et qu'on n'arrive pas à identifier, que vous avez filtré beaucoup, ralenti. Est-ce que vous manipulez jusqu'à ne faire que ce soit complètement fantomatique ?
Alors c'est vraiment à la réécoute, là, ce que je me disais. Ça donne presque l'impression que ça a été c'était un cœur qui était enregistré sur la bande, avant que moi-même j'y appose ma musique, comme oui. Un résidu, c'est comme ça. Ça arrive souvent avec la bande magnétique. Oui, il y a toujours les grains sur la bande, on garde une mémoire de ce qui a été enregistré auparavant, même si on l'efface
comme un palimpseste que vous feriez. Quoi. C'est-à-dire, vous aurez enregistré sur autre chose, et puis finalement on arrive à une matière hyper fournie.
C'est vrai que ça donne cette impression-là. Alors, ce cœur en est un exemple, mais... J'ai tendance à utiliser plusieurs types de sources sonores, à me les approprier, les manipuler. Là, par exemple, j'ai fait toutes les manipulations qui sont les classiques de l'électroacoustique, de réverbération, de ralenti, de pitch, de découpage. Et j'ai quasi oublié quelle était la source sonore d'origine. Ouais. C'est devenu un de mes éléments musicaux, même si c'est pas moi qui ai enregistré ce cœur à l'origine. C'est devenu la matière que j'utilise. C'est
votre vocabulaire.
Ça fait partie de mon vocabulaire, exactement.
On peut dire que vous avez un vocabulaire, parce que c'est vrai que dans toutes les pièces qu'on entend, on entend vraiment ces matières déjà de chuintement, de craquement, et puis ces différents filtres de craquement. Vous avez quand même un vocabulaire qui essaie de se contenir, de rester dans un espace dans lequel vous pouvez maîtriser justement ces matières et les agencer entre elles. C'est un peu ce que vous faites en installation, parce que vous êtes à la fois artiste live, vous êtes à la fois artiste studio, mais surtout artiste d'installation. On voit vos bandes sur différentes machines évoluer un peu de manière autonome. Enfin, est-ce que vous pourriez décrire un peu ce que ce sont vos installations avec ces bandes ?
C'est pratiquement mon utilisation principale de la bande magnétique, mais cette fois c'est une bande qui est plus large que la cassette, qui fait le double de largeur. Qui était celle dans les magnétophones, soit professionnels, soit celle qui était dans le grenier de vos parents, des magnétophones de type Revox. Et sous forme d'installation, je crée une espèce d'enchevêtrement de bandes magnétiques en ne faisant pas lire la bande par les magnétophones de manière standard, mais au contraire, je la sors du magnétophone et je la déploie avec l'aide de roulettes et de poulies. Je sors jusqu'à, je sais pas, 2 kilomètres de bandes magnétiques qui s'entrecroisent, qui forment des figures géométriques et qui sont lues par plusieurs magnétophones, on va dire une dizaine de magnétophones. Et sur ces bandes, j'enregistre, une fois que j'ai fait mon parcours de bandes qui me plaît esthétiquement, je décide d'enregistrer tel son sur un magnéto, tel son sur un autre. En fait, c'est des boucles, c'est énormes boucles de bandes. Qui n'ont pas la même longueur les unes
et les
autres.
Donc automatiquement, ça a une synchronicité qui est complètement fluctuante.
Qui est presque aléatoire. On pourrait venir 2 fois, ou 10 fois, ou 100 fois, et ne pas entendre tout à fait la même chose. Mais ça va toujours être un univers qui est cohérent.
Oui, parce que c'est votre vocabulaire, c'est vos sons, donc comme une sorte de puzzle aussi de votre univers qui se refait à chaque fois. Et vous vous laissez surprendre finalement par la bande, parce que c'est le dessin, comme vous dites, que vous réussissez à faire dans l'espace de ces bandes-là, qui vont vous dire, bon, tiens, je vais enregistrer tel son sur tel appareil ou tel autre. Et le résultat, vous ne le maîtrisez pas à 100%. Vous êtes plus dans une découverte. La bande vous laisse des surprises.
Non, je ne le maîtrise pas à 100%. Après, je commence à bien connaître mes magnétos. Je commence à savoir quelle distance de bande magnétique je peux utiliser avec. Et puis certains ont des particularités sonores. Je me dis, tiens, là, ça serait mieux que j'utilise une voix, ou sur celui-là, ça sera plutôt de la synthèse. Mais en tout cas, le résultat sonore est dépendant du moment où on rentre dans l'espace.
C'est de l'instant, quoi, c'est du moment. Et pour ça, j'invite les écoutants à aller voir sur votre site suchasound.wordpress.com. On voit plusieurs vidéos de différentes installations, mais on voit finalement qu'avec ces installations énormes, enfin énormes dans le sens gigantesques parce qu'elles prennent de l'espace, on se rend compte de la longueur d'une bande magnétique. C'est surtout ça qui est impressionnant. Et évidemment, on se pose la question du temps, parce qu'en regardant une bande magnétique déroulée sur 2 km, on se pose la question de ce défilement du temps qui est vraiment visible avec le matériau de la bande. Est-ce que pour vous, c'est une manière aussi de composer, de prévoir cette longueur de la bande, d'y mettre des sons en fait, au fur et à mesure, comme sur un bout de papier sur lequel on griffonnerait des notes?
Voilà, l'approche de la bande magnétique, pour moi, il est avant tout esthétique. C'est-à-dire c'est un objet désuet, mais qui est un matériau que je trouve extrêmement beau. Mais après, la relation au temps, elle est cruciale. Dans mon travail, par exemple, alors je pense pas à l'installation là, mais à un moment en concert, j'utilisais plusieurs magnétophones cassettes que je disposais dans le public et sur scène, et donc je les déclenchais à certains moments. Je pouvais par exemple essayer de répéter chez moi. Donc si je veux enregistrer, on va dire 10 minutes de musique et que j'ai 6 magnétos, ça va me prendre 6 fois 10 minutes, ça va me prendre une heure, au moins une heure pour pouvoir enregistrer et répéter une première fois le dispositif. Et si on veut faire un changement, il faut à nouveau, c'est pas juste un petit crossfade qu'on va faire sur un logiciel d'édition. Il faut refaire chaque piste, réenregistrer chaque cassette. Donc on a un rapport au temps qui est extrêmement différent. C'est beaucoup plus lent, beaucoup plus long.
Artisanal aussi.
Et c'est beaucoup plus artisanal.
Que l'on retrouve par exemple dans une de vos prochaines créations qui s'appelle Stylus Dust, qui est une forme d'installation aussi où vous avez carrément demandé à fabriquer un disque pour gramophone, ce qui est absolument introuvable, avec votre musique gravée dessus et pour pouvoir la mettre en résonance avec d'autres platines vinyles. On va écouter un exemple pour voir comment cette mise en abîme des médias, des vieux médias désuets, peut devenir une musique tout à fait moderne d'aujourd'hui.
Thank you.
Un extrait de Stylus Dust, un projet en cours de Marc Parazon, ici avec un gramophone, quatre platines vinyle, et tout ça, bon, ici réduit en stéréo parce que nous sommes à la radio, mais normalement c'est du 8 pistes. Marc ?
4 stéréos ça fait 8, mais si on ajoute le gramophone ça fait 9, donc c'est un format qui n'existe pas. L'idée c'était de remonter dans le temps un peu plus loin que la bande magnétique, donc aller jusqu'au gramophone. Donc le gramophone antique avec sa belle tulipe. Et l'idée, c'était, comme j'utilise beaucoup ces craquements de vinyle, c'était de fabriquer des disques, donc presser des disques vinyle et un disque pour gramophone. Et sur les disques, écrire une musique qui est composée pour une grande part de craquements de vinyle. Du coup, l'auditeur n'est pas en mesure de savoir d'où proviennent les craquements qu'il entend.
Est-ce qu'ils sont écrits, gravés,
est-ce qu'ils sont intentionnels, voilà. Ou est-ce que c'est la lecture qui rajoute, parce que la lecture rajoute une couche de craquement à chaque fois. C'était dans l'idée de troubler un peu la perception auditive.
Ah, c'est ça, il y a l'illusion auditive vraiment qui est créée à cet endroit-là. Et pour vous, il y a une manière aussi de participer à ce grand mouvement plutôt de pensée ou plutôt une matière qui regroupe à la fois histoire, sociologie, musicologie, ce qu'on appelle l'archéologie des médias, c'est-à-dire aller chercher ces médias qui ont encore à dire et qui nous parlent d'une pratique sonore d'un temps passé. Pour vous, c'est pas nécessairement emprunter la musique à l'époque du gramophone, mais nous dire que la matière même avait des choses à dire.
C'est vraiment le travail du support que je trouve. Je l'ai dit tout à l'heure, il y a une espèce de caméra obscura, mais du son. Je ne sais pas comment on pourrait.
On pourrait dire ça.
Mais il y a vraiment quelque chose de magique quand on pose l'aiguille, on entend un orchestre, c'est fantastique.
Alors que c'est juste un tout petit sillon de rien, on arrive à avoir un orchestre à bout, c'est sûr. Donc dans ces projets-là d'installation où le public est invité justement à voir ces différentes boucles qui se superposent différemment à chaque fois, ces illusions sonores, vous avez une matière qu'on pourrait dire presque abstraite quelque part, mais souvent vous empruntez, on l'a entendu tout à l'heure avec un chœur un peu fantomatique derrière vos matières. Vous avez aussi des fois du mot qui débarque comme ça, et c'est l'exemple par exemple dans un morceau qui s'appelle Stupa. Ça m'a sauté à l'oreille, parce que d'un coup, j'avais du sens qui était donné à travers ce texte qui nous parle de tape machine.
As for the tape recorders, the sounds we hear are from natural sources, which have been changed through electronic means, that is, of altering of speed, usually, or direction, perhaps, of the tape. What kind of natural sounds, I am not sure, but they would probably include scratches on objects or dropping of objects, any kind of sound which might be made and then treated by a tape machine changes. It is really amazing what happens, for instance, to the sound of a cymbal if it is changed and altered by tape sounds. Are we getting sound on the stage now, Jim? I'm going to open up the mic. It seems that something's already happened.
Un extrait de Stupa de Marc Parazon, alias Chutch. Ici, on a entendu plusieurs séquences, et on peut vraiment parler de séquences, mais qui sont intimement liées par ces matières que vous déformez, puis souvent des sortes de paliers que vous faites passer, comme des sortes de crincements qui nous permettent de passer d'un état à un autre. On était dans le sens avec cette parole sur la tape machine, on a l'impression de rentrer dans votre cuisine, savoir comment vous faites. Et qui est-ce qui parle d'ailleurs dans cet enregistrement, Marc Parazon?
Eh ben, j'avoue que j'ai complètement oublié, puisque c'est
un
enregistrement que j'ai récupéré et que j'ai copié ensuite sur une cassette. L'autocollant où j'avais marqué le titre de la cassette s'est enlevé. Et bon, c'est une cassette que j'utilise souvent en live. Je me dis, tiens, c'est un texte qui explique en fait les recettes de musique électroacoustique. Hein, c'est passer un son à l'endroit, à l'envers, utiliser des screech-crooch. Mmh. Voilà. Ça explique ce qu'on est en train d'entendre.
Ouais. On est encore dans une mise en abîme, comme à chaque fois, on est que ce soit le craquement du vinyle qui se retrouve sur la bande, qui se retrouvera après sur le disque du gramophone. Ici, on nous parle de comment on fait de la musique électroacoustique alors qu'on est en train d'en faire en temps. Vous aimez aller plus loin encore pour nous faire écouter différemment, creuser toujours un peu plus loin. C'est l'archéologie, hein, on revient à l'archéologie.
Oui, j'aime bien en fait quand il y a une espèce de mise en abîme qui est créée quand on a pas un discours sur le discours, mais j'utilise par exemple des vieilles archives d'une explication de fabrication des cassettes ou des fabrications de disques. J'utilise énormément de sources sonores, alors certaines que je produis moi-même par la synthèse, par mes enregistrements, mais aussi des choses que je peux récupérer sur Internet, sur d'autres disques, du sampling. Mais à force de manipulation, de transformation de ces sons, j'ai oublié quelle était la source.
Dans Stupa qu'on vient d'écouter, on avait l'impression des fois d'entendre vos doigts travailler sur la bande. Alors, je pense que c'est une illusion d'optique parce qu'on ne doit pas entendre vos doigts vraiment, mais on avait l'impression d'entendre justement des tapotements sur la bande. On a l'impression de rentrer dans votre petite recette, et c'est le cas par exemple de Opaque Fragment, parce que quand je vous ai demandé « Oh, j'adore ce morceau parce qu'il y a un souffle, on entend le souffle analogique de la bande », vous m'avez dit « Mais pas du tout, c'est pas du tout un souffle analogique de la bande. »
Non, je l'ai pas écrite pour bande, je l'ai faite sur informatique. Mais l'idée de départ, c'était d'enregistrer au plus près possible une combustion de cigarette. Simplement, je me suis enregistré très très près d'un micro en train de fumer une cigarette. Et ensuite de décomposer au microscope le son de cette combustion en la ralentissant, en la filtrant, en la passant à l'envers, en la passant dans divers effets. Mais l'idée de départ, c'était de m'enregistrer en train de fumer une cigarette.
C'est sur ces matières grouillantes, suintantes, soufflantes de cigarettes, pour moi imitant quelque part le souffle naturel d'une bande magnétique, que nous nous quittons. Merci beaucoup Marc Parazon, enfin Such, d'avoir accepté l'invitation. On peut suivre votre activité sur différents sites internet, en particulier suchasound.wordpress.com et surtout sur such.bandcamp.com où on peut écouter et acheter votre musique. Ça, c'est toujours important de le dire. Je tiens à signaler aussi le site Stahlplatte. On retrouve l'édition Truth Series, ces 12 cassettes retraçant plusieurs de vos œuvres. On vous retrouve à Présence Électronique ici à Radio France le 24 mars prochain. Et puis vous serez aussi à Musique Action, Vendeuvre, scène culte de la musique expérimentale. On pourra voir vos œuvres. Merci beaucoup Marc et bonne année.
Merci à vous.
Et bonsoir Antoine Berland. Et bonne année Antoine Berland.
Portrait sonore. Antoine Berland.
Faites un son aigu.
Que pensez-vous de la musique? Musique, c'est ma vie.
Bonjour.
Dites bonjour. Bonjour.
Portrait sonore numéro 44. La musique, c'est un remède. Bobo Dioulasso, février 2016.
Plus belle qu'une fleur, peut-être que j'en dis peu. Plus belle qu'une déesse, peut-être encore que j'en dis peu.
Allah Barika,
est la plus belle que toutes ces beautés.
Et Miami,
j'imagine la recevoir.
Allah Barika.
Je chante mal, je chante mal.
Parler.
Sous
la pluie, c'est l'ami, sous l'est, tu suis sous l'ami, qu'on aimait sa l'âme, son amour,
y'a femme.
Ça m'amène à rêver, quoi. Je vais loin, avec d'autres inspirations, les paroles, souvent, ça guérit, quoi.
Voilà. Je pense que c'est, pour moi, la musique, c'est un remède, quoi. Ça me guérit face à certaines situations.
Do, ré, mi, fa, sol, la, si, do. Do, ré, mi, fa, sol, la, si, ré, do.
Fin de notre premier épisode du Cri du Patchwork sur la bande magnétique. Merci à Perrine Mingui aux commandes et à la réalisation du Cri du Patchwork. Nous avions aujourd'hui la technique Nicolas Depagraf. Merci à Flora Stanadel, toujours à l'affût du moindre son, ainsi qu'à Antoine Villouze, qui met son oreille là-dedans depuis la discothèque de Radio France. La semaine prochaine, on continue notre parcours sur la bande magnétique en compagnie d'un artiste incontournable des musiques concrètes et électroacoustiques, qu'il nomme, lui, l'art des sons fixés. Michel Chion. Compositeur, musicologue, auteur viendra nous raconter son aventure avec la bande magnétique qui continue toujours à être son médium de prédilection. D'ici là, si vous voulez connaître toutes les infos de chaque extrait diffusé dans cette émission, je vous donne rendez-vous sur le site internet de France Musique, francemusique.fr. Vous pourrez également podcaster cette émission ainsi que les portraits sonores d'Antoine Berland. Chers écoutants.
Si je fais un tagalam. Voilà. Deux, ça suffit. Un, il sait ce qu'il a à faire. Un, voilà. Deux, trois. C'est simplement pour savoir qu'on est ensemble. Hein? Bonjour, au revoir. Voilà.
Il est minuit, vous écoutez bien France Musique. Je passe la main à Anne Montaron et Création Mondiale.
À réécouter sur francemusique.fr.